De Siri Utzvedt. Un jour, en mai 2006, je me suis levé sous un ciel bleu sans nuages et j'ai commencé à parler. Dès que j'ai ouvert la bouche, je me suis mis à trembler violemment. J'ai tremblé ce jour-là, et puis j'ai tremblé à nouveau d'autres fois. Je suis la femme qui tremble. Des récits de courage. Il faut oser la faiblesse, aller sans carapace, nu devant l'existence, dit Alexandre Jolien, auteur d'Éloge de la faiblesse. Il y a le dernier livre du neurologue et écrivain Oliver Sacks, L'œil de l'esprit, dans lequel il nous révèle que, depuis son enfance, il ne reconnaît pas les visages, ni les lieux, ni même son propre visage dans le miroir. Les visages et les lieux sont pour lui, depuis toujours, des labyrinthes sans fin dans lesquels il se perd. Que nous dit d'Oliver Sacks cette singularité ? Les difficultés qu'il a vécues depuis l'enfance, l'incompréhension de la plupart de ceux qu'il rencontre, qui le croient méprisant ou indifférent, et le travail considérable qu'il a accompli pour compenser ce handicap. Et ceci encore, que cette incapacité à inscrire dans sa mémoire les traits des visages a peut-être contribué à l'engager dans cet extraordinaire élan vers l'autre et dans cette quête de ce qu'Emmanuel Lévinas appelait le véritable visage. Ce visage invisible, si intime que seul l'œil de l'esprit et du cœur peut s'en approcher. Et il en est de même pour Joseph. Cette singularité est une part de ce qu'il est, sa part de vulnérabilité, mais elle est aussi sa richesse, cet immense travail qu'il accomplit sur lui-même et la profondeur du regard qu'il porte sur le monde, sur lui-même et sur les autres. Muet, enfant, alors qu'il savait déjà lire et écrire, il a fait de l'étude des langues une passion, une éthique, qui le mène à la rencontre de l'autre, essayant de le comprendre à partir de ce qu'il a de plus intime et tentant aussi de préserver le trésor si fragile qu'est chacune de ces langues dans sa singularité. L'éthique, dit Paul Ricoeur, consiste à se penser soi-même comme un autre. Pas se contenter de penser l'autre comme s'il était nous-mêmes, mais avoir l'humilité de devoir s'imaginer soi-même comme un autre que l'on ne connaît pas et qu'il va falloir découvrir en allant à sa rencontre. L'autre, toujours à découvrir, toujours à reconnaître, toujours à réinventer. Comme un manque, en nous, de la part de nous qui est dans tous les autres. Joseph Chovanec m'a permis, par l'intermédiaire de son regard, de découvrir une dimension de la réalité qui n'était jusque-là demeurée inconnue. C'est un livre bouleversant, d'une exceptionnelle délicatesse, d'une extrême émotion. Un extraordinaire récit d'aventure, empli d'esprit, d'élégance, de courage, de la distance de l'humour et de la profondeur d'une culture sans frontières. Une leçon de vie, une leçon d'humanité. Jean-Claude Amezen, médecin et chercheur, membre du Comité consultatif national d'éthique. Avant-propos. Un soir, dans un gymnase de banlieue, une conférence est donnée par un personnage tout droit sorti d'un film de Tim Burton, grand échalas à l'allure si étrange. La voix est lente, l'accent est d'ailleurs, les mots sont précis, l'humour est féroce et la salle rit beaucoup. Démarrant une enquête pour les besoins de mon film, j'ai une connaissance de l'autisme et des autistes alors proche de zéro. Cette première rencontre avec Joseph Chovanec va bousculer bien des a priori et déterminer pour une bonne part le sens de mon travail. Elle a été une révélation autant qu'une découverte. D'abord celle d'un homme brillant, plein d'esprit, à la parole ciselée et d'une humanité aussi touchante que désarmante. Ensuite, la découverte de ce qui m'apparaîtra vite comme un scandale de santé publique, celui qui fait de la France l'un des pays les plus en retard dans le diagnostic de l'autisme, comme dans le traitement et l'accompagnement des personnes porteuses de ce handicap. Atteint du syndrome d'Asperger, Joseph Chovanec est resté muet jusqu'à l'âge de 6 ans. Ses difficultés d'élocution étaient si fortes que seul son entourage proche pouvait le comprendre. Il est même probable que, sans la détermination de ses parents à ne pas accepter la thèse d'un traumatisme psychique irréversible, ce silence l'aurait conduit dans un hôpital psychiatrique et nous aurait sans doute privé à jamais d'une intelligence hors du commun. Car cet enfant qui n'était pas jugé apte à entrer en CP, cet adolescent si souvent traité d'idiot, de taré ou de débile mental, Cet homme qui a tant de mal à dire bonjour, à entrer dans un café et pour qui l'acte quotidien le plus anodin comme acheter son pain ou passer un coup de téléphone devient une source d'angoisse insurmontable, est sorti diplômé de Sciences Po Paris, est aujourd'hui docteur en philosophie, parle couramment de nombreuses langues, écrit des discours et donne des conférences dans le monde entier. Mais pour un Joseph Chovanec, qui a eu l'immense chance d'être entouré et a trouvé la force de ne jamais se résigner, combien de milliers d'enfants autistes non diagnostiqués avant l'âge de 6 ans et condamnés à une prison du silence à vie ? Reviennent alors des bouts de notre mémoire. Une cour d'école, un enfant seul dans un coin, étrangement habillé, silencieux, le regard fuyant, celui ou celle à qui on ne parlait pas, proie idéale des pires vexations et humiliations. Dans ce monde, dont il ne comprend pas les codes, c'est en se rendant compte qu'il était le seul élève de sa classe à se faire systématiquement tabasser à la récréation que Joseph Chovanec a pris conscience de sa différence. Mais la plainte n'est jamais le registre de Joseph Chovanec, comme de tous les autistes que j'ai rencontrés. Leur mise à l'écart systématique de tous les lieux de vie, l'école, la bibliothèque, la piscine, l'université, l'entreprise, crée d'immenses souffrances, mais jamais de rancœur, jamais d'agressivité. Au contraire, une curiosité, une extrême et même délicate attention à l'autre, dans une franchise et une candeur souvent désarmantes, comme des mots d'adulte sur des attitudes d'enfant. Joseph Chovanec a fait de son handicap un atout. Personnalité très attachante, il n'oublie jamais d'où il vient. Cet homme qui se sent apatride les jours de déprime et citoyen du monde les jours où ça pétille, nous délivre ici une magnifique leçon d'humanité. Sophie Réville, productrice. En guise d'introduction. Pourquoi les livres ont-ils souvent une introduction ? Je n'en sais rien. J'ai participé, fin 2008, à un colloque à l'université de Tallinn, entièrement consacré au sujet. Et à vrai dire, je n'en sais pas davantage depuis. Mais, alors que j'écris les premières lignes de ce livre, le souvenir de ce déplacement dans cette partie du monde m'envahit comme une forme d'introduction vivante. Une nuit glaciale de décembre, à peine interrompue par quelques lueurs du midi, une langue non indo-européenne si intrigante, toute une découverte qui allait donner naissance à un deuxième voyage, un peu plus long, et à de nombreux autres. Aujourd'hui, à l'heure où mes pas me mènent ailleurs, par-dessus les images des trottoirs de la vie, je vois toujours et encore celle de la vieille ville de Tallinn, des paysages de Livonie et de Courland. Un rêve tel une petite histoire de l'autisme en quelque sorte imprévue, inhabituelle, bref, vécue. D. Finissons avec l'autisme. Avec l'introduction, les ouvrages doivent se livrer à un autre exercice. Définir leur sujet. Ou objet. Je me perds toujours entre les deux termes, explication et étymologie ne m'étant d'aucun secours. Quoi qu'il en soit, comment pourrais-je définir l'autisme ? À renfort de citations issues de manuels médicaux ? De grandes affirmations péremptoires ? Une fois encore, je ne sais pas. Je peux tout au plus tenter d'avoir recours à la petite histoire, aux petites histoires des gens. N'est-ce pas, après tout, ainsi que, sous la plume d'Hérodote, naquit ce que nous nommons la grande histoire, laquelle, prenant un H majuscule, bientôt affublée de « isme », allait déboucher sur une machine à traquer l'anormal, là où le natif d'Halicarnasse, devenu athénien d'adoption, voulait narrer les vies sérieuses et invraisemblables de tous, des Grecs comme des barbares. Curiosité qui lui valut durant des siècles une réputation de simple d'esprit. Commençons par là précisément. L'autiste est avant tout, d'après un consensus général, un benêt, ou plutôt un demeuré, une personne avec un handicap mental, quand le discours doit paraître érudit. Personne en situation de handicap mental, pour les plus raffinés, en attendant une formulation encore plus longue qui ne saurait tarder à apparaître sur la toile. Une andouille, un crétin, un taré, dès lors que la loi de la chaumière reprend sa primauté sur celle de la blouse blanche.